chanteurs, des sculpteurs de géants, des danseurs, des arachnophobes.
J'ai le sentiment que cet homme s'ennuie beaucoup avec lui-même.
Chaque soir.
Alors je vais chanter une chanson que je vais chanter pour l'instant.
Chez nous.
Qu'à ma copine.
C'est chez vous.
Déconcertant.
N'importe quand, quand vous voulez, je vais venir.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi.
C'est tout.
À partir de 21h. France Inter. La différence.
Et la différence sur Inter, c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour là-bas, si j'y suis. Je viens d'écouter Arnaud de Montebourg ce matin, il a dit un truc qui m'a fait tilter. Quand on essaie de rassurer les marchés, en fait, on rassure des ordinateurs. Ouais, parce que les marchés, maintenant, ça marche sur ordinateur. C'est que des ordinateurs, quasiment. Donc ça fait 3 ans, putain, qu'on rassure des ordinateurs. Alors chacun, chez son, on va prendre son ordinateur, on lui fait un gros câlin, on lui dit, t'inquiète pas. Voilà. Putain, ça fait 3 ans qu'on rassure des ordinateurs. C'était Guillaume.
Qu'est-ce qu'un gouvernement technique ? Voilà une notion que l'on entend dans toutes les salles de rédaction qui qualifie les gouvernements italiens et grecs. Les journalistes si prompts à décrypter et analyser les phrases de nos politiques n'ont pas l'air d'interroger ce nouveau mode de gouvernement. Doit-on s'inquiéter de cette prise de pouvoir par des technocrates ? Moi, quand ce sont des militaires qui font de même et prennent le pouvoir de manière autoritaire et coercitive pour la population, on appelle ça un putsch. Alors, l'Italie et la Grèce sont-elles encore des démocraties ou deviennent-elles des dictatures ? C'est Noël de Nantes.
Bonjour, là-bas, si j'y suis. Eh bien, voilà, j'ai fait un petit calcul. Mario Monti, le président du Conseil italien, d'où vient-il, ce monsieur ? Il vient de la banque Goldman Sachs. Mario Draghi, directeur de la Banque Centrale Européenne, d'où vient-il ? De la banque Goldman Sachs. Donc, deux Mario, bien propres, bien nets, deux véritables marionnettes de Goldman Sachs. C'était Serge de Dieulefi.
On est là, juste en face de Palazzo Grazioli. Il est à peu près, Palazzo Grazioli étant la résidence romaine de Berlusconi. Berlusconi l'a démissionné il y a à peu près une heure. Là, on est jusqu'à 22h30, quelque chose comme ça. Et toute la foule qui était devant le palais de la présidence de la République, là où Berlusconi a démissionné, est maintenant regroupée ici devant Palazzo Grazioli, sa résidence, pour lui faire la dernière fête, pour ainsi dire. C'est le jour de la libération pour les Italiens. Bien sûr, on en a rencontré beaucoup qui nous ont expliqué qu'à partir de demain, il faudra être lucide parce que ça ne fait que commencer, mais bon, on en a fini au moins avec Berlusconi. On recommencera peut-être à parler des luttes de classe ici et on arrêtera de parler des prostituées et des nains.
Les gens boivent, s'embrassent autour de nous, se jettent les uns dans les bras des autres.
Ce soir, vous êtes venu faire la fête pour fêter la fin de Berlusconi.
En fait, pour la libération, parce que c'est la libération pour nous, hein, maintenant.
Libération de quoi ? Vous l'avez vécu comment, vous, maintenant, mais...
Oui, de 17 ans de berlusconisme, ça veut dire...
C'était la fin de la culture, la fin d'une relation civile entre les sexes, parce que Berlusconi a blessé la dignité des femmes italiennes, et ça... Et vous savez qu'une grande partie de la chute de Berlusconi, c'est grâce au mouvement des femmes qui se sont fâchées. Vous savez, en février, en Italie, il y a eu un grand mouvement de femmes qui a dit « ça suffit, on en a assez de tout ça, de la prostitution, de la réduction de la femme en objet, d'échange, de tout cela ». Ça, c'est la fin. Quand nous, on dit l'Europe, ça veut dire nous, on veut travailler pour une Europe juste.
Seulement de la banque ou du marché, hein, non, pas de ça, mais de l'aide.
Juste à ce moment, nous, on a été gouvernés en tant qu'Europe par les banques, en tant qu'Italie par un homme qui n'est pas digne d'être là où il a été jusqu'à ce moment-là.
Et alors là, les policiers attaquent tout le monde. Tout le monde. C'est la
police de Berlusconi. Ça, c'est la police de Berlusconi qui, à mon avis, est encore là.
Voilà, même sans parler italien, j'espère que vous comprenez ce qui se dit et ce qui se scande, ce qui se scandait hier soir à Rome. On était avec Francesco Giorgini et notre Pascal Pascariello qui passait par là et qui nous ont envoyé ces cartes postales sonores d'un grand moment, évidemment, pour l'Italie, même si cette chute et ce départ de Berlusconi est une demi-victoire et peut-être pas une victoire du tout. Ce qui est à noter, c'est ce qui s'est passé peut-être au Portugal. On n'a pas de reporters partout dans le monde, c'est bien dommage. Sinon, on aurait vu que dans les manifestations de ce week-end au Portugal, à Lisbonne, il y a eu des militaires. Les militaires portugais se sont joints massivement aux manifestants, en civil bien évidemment, mais les militaires portugais ont laissé un souvenir aux Portugais, celui de la révolution des œillets, et où l'armée s'était jointe au peuple et avait soutenu le peuple contre la dictature. Et il y a un lien qui se fait dans l'esprit, pas seulement dans l'esprit, dans les cœurs et dans les cris des Portugais, entre la dictature d'hier et la dictature des marchés aujourd'hui. C'est sans doute ce que nous entendrons à Athènes dans les jours prochains. Voilà ce qui s'est passé hier soir. Aujourd'hui, on va à Rafah. On continue notre suite de reportages sur la Palestine. Mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, à commencer par ce message sur, justement, ce qui s'est passé à Rome hier.
Salut Daniel et salut les AMG. Je lis un peu partout la liesse qui s'empare des Italiens suite au départ de Berlusconi. Et je me demande quand même si le départ de Berlusconi est une bonne chose. Enfin, plutôt, est-ce que son départ de cette façon est une bonne chose? Car il y a une question qu'on voit pas partout, en fait, en tout cas, et qui se pose et qui est tout simplement qui a viré Berlusconi du pouvoir. Si on procède par élimination, on se rend vite compte que déjà, c'est pas le peuple, et ni les manifs qu'il y a eu, il y en a eu quand même pas mal en Italie, c'est pas non plus l'opposition. C'est pas non plus les scandales à répétition sur toutes ces blagues graveleuses, on va dire dans tous les sens du terme. Hein. C'est pas non plus ces lois d'amnistie et cette façon si particulière de se foutre de la gueule de la justice de son pays. C'est pas non plus ces liens contigus avec les médias. C'est pas non plus ces scandales sexuels. Entre un type de 70 balles avec une gamine de 17 ans dans un pays ultra-catholique, j'aurais pensé que ça aurait pu faire bouger les lignes. C'est pas non plus son rapprochement sans pudeur avec la Ligue du Nord. Non, c'est pas tout ça. Ce qu'on virait Berlusconi, c'est les financiers, c'est la bourse. Un peu comme Papandréou, en fait. Et je me dis que deux dirigeants européens, malgré tout élus démocratiquement, qui sautent en deux semaines, grâce au marché, quelque part ça me gâche un peu mon plaisir quand même, parce que c'est vrai que Berlusconi, je m'étais quand même dit, bon, quand il sautera, je serai content. À moitié, en fait. À moitié.
Il faut être indigné, et je suis indigné. Pour plein de choses, mais là, je suis indignée par le discours d'une des auditrices qui parle des militaires et qui parle des militaires qui ont été tués en Afghanistan et dont c'est le métier de se faire tuer. Mon petit frère a été tué par les talibans et j'avais jamais envisagé qu'il avait choisi le métier de se faire tuer. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir.
Le prochain repère de Montreuil-sous-Bois se réunira exceptionnellement le mardi 15 novembre à 19h au bar Magique, 2 places de la République, métro Robespierre. Le thème de la santé sera abordé avec notre ami Jean-Marc, compétent et militant en ce domaine. De quoi débattre? Les fermetures de centres, d'IVG, de maternité, de structures, de proximité, etc. Les regroupements de services, bref, de quoi s'informer, débattre et s'organiser pour résister.
Amis du Nord, bonjour.
Il y a les indignés espagnols, il y a les indignés de Wall Street, et il y a aussi les indignés lillois. Les amis de l'Abbassi-J'y-suis de Lille reçoivent ce soir à 20h les indignés lillois. Café Repère, l'imaginaire dans le Vieux-Lille. Venez nombreux dès 20h. À ce soir.
Bonjour Daniel, c'est Christian de Plérin dans les Côtes d'Armor. François Ruffin fait son Fakir Bretz Tour. Contre le fatalisme, vive le protectionnisme. Il passera ce mercredi 16 à 20h pour une conférence débat à la salle du temps libre, rue Maréchal Foch à Saint-Brieuc, à l'invitation d'Attaque 22 et de Solidaire. Venez nous aider à enfoncer le clou. Salut.
Voilà, on entre dans Gaza. On entre dans Gaza. On est passé par toute une succession de barrières, de tourniquets, d'examens, de machines qui nous observent, de portes devant lesquelles on attend, qui ressemblent à des murs et qui s'ouvrent soudain. Et puis il y a cet interminable couloir grillagé que l'on suit pour rejoindre de l'autre côté le côté palestinien de Gaza. Gaza est une cage. On va aujourd'hui dans des cages, dans cette cage. Vous allez voir et vous allez sentir le... C'est dont je parle. Mais en entrant ici, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé en 2008, décembre, janvier 2008, 2009, ce qu'on a appelé l'opération Plomb Durci. On n'est pas venu depuis à Gaza. Et en marchant le long de cet interminable couloir grillagé, au travers duquel on aperçoit rien, une sorte de no man's land, des ruines, comme on sait en bâtir dans cet endroit du monde. On pense à ce qui s'est passé là, donc 2008-2009, l'opération Plomb Durci. Et si vous voulez, on va revenir sur ces moments. On avait eu des amis de Gaza par téléphone qui nous disaient comment ils vivaient ces bombardements israéliens. Et puis on avait à l'époque rencontré Stéphane Hessel, et qui parlait de ce qui se passait à Gaza. Dans cet indigné qu'est Stéphane Hessel, il y a quelque chose qui gêne beaucoup certains, c'est sa position sur Gaza.
France 2.
Ce bâtiment des forces de sécurité du Hamas vient d'être frappé par un missile.
28 décembre 2008.
C'est l'une des 230 cibles visées par l'aviation israélienne ces dernières 24 heures. Gaza brûle et les Palestiniens comptent leurs morts. Les raids ont déjà tué près de 300 personnes. La moitié sont des civils, des femmes, des enfants.
Mirvat, vous vivez où exactement, vous ?
Moi, je vis à côté, côté ouest de Gaza.
Là-bas, si j'y suis.
Le quartier, il s'appelle le palais du gouverneur.
6 janvier 2009.
Qui a été détruit, de toute façon.
Comment vous vivez ?
Ben, comme tout le monde. Hein. C'est très difficile de vivre. Hein. On a peur, on a froid. Mon fils a peur. Il ne peut pas dormir dans son propre lit. Il dort entre moi et mon mari. Ça fait 11 jours qu'il dort entre nous. Il a 11 ans, il tremble. Dès qu'il a des rêves, il me dit « Maman, maman !» Moi aussi, je tremble, plus que lui. Hein. C'est incroyable. Je ne peux pas vous dire. Hein. Il y a des blessés partout, il y a des cadavres. C'est un cataclysme. À Gaza, c'est le cataclysme. On vise tout, les écoles, les bâtiments, les gens, les civils, les mosquées. Les gens qui prient dans les mosquées, ils sont visés. Les universités, tout, les hôpitaux. Enfin, on dit hôpitaux, mais il n'y a plus d'hôpitaux maintenant. Les gens meurent dans les couloirs.
Mais vous avez pensé à partir ?
Non, je ne partirai jamais. C'est mon pays. Ça, c'est mon pays. Je suis palestinienne et je ne partirai pas. Oui, c'est mon pays. On est enraciné ici.
En 23 jours, l'opération Plomb Durci aura fait plus de victimes que la première intifada,
France 2,
qui avait duré 6 ans.
13 janvier 2009.
Voilà, on est avec Stéphane Hessel. On assiste à des heures dramatiques, impuissants que nous sommes, à Gaza. Comment vous, Stéphane Hessel, comment vous, vous percevez ça? Comment vous ressentez ça?
Là-bas, si j'y suis, 8 janvier 2009.
L'opération israélienne contre Gaza est une contre-performance absolue. Ça va être de plus en plus difficile de ne pas être révulsé par la façon dont les Israéliens se comportent et l'armée israélienne se comporte à Gaza.
Vous connaissez le poids des mots, tout le monde sait que vous avez participé à l'élaboration du texte sur la déclaration des droits de l'homme ou des droits humains, enfin on connaît votre sens des mots, hein, le poids des mots, là, il fallait que les mots soient très précis. Est-ce que vous parlez aujourd'hui d'un crime contre l'humanité pour ce qui se passe à Gaza?
Je préfère employer le mot crime de guerre, qui me paraît plus lié à ce qui se passe, parce que c'est faire une guerre alors qu'on n'a pas d'ennemis organisés nationalement. On ne fait pas la guerre contre un État, on fait la guerre contre des miliciens, des militants, des gens qui veulent la libération de leur territoire. Et ce genre de guerre est criminel. Nous l'avons vu au Vietnam, faite par les États-Unis. Nous l'avons vu en Russie, faite contre les Tchétchènes. C'est exactement un crime de guerre. Je n'emploierai pas le mot génocide, qui veut dire que c'est une race ou une ethnie que l'on veut détruire. Les Israéliens ne veulent pas détruire les Arabes, ils veulent détruire les Palestiniens. C'est donc plutôt un politicide, c'est un mot qui est employé d'ailleurs par mon ami Warshawski pour définir la façon dont se comportent actuellement les Israéliens.
Israël aura mené 2500 raids aériens sur Gaza, avec utilisation de bombes au phosphore dans des zones peuplées.
Allô?
Allô? Monzer?
Oui, c'est moi.
Bonjour Monzer, c'est Anis. Bon.
Là-bas, si j'y suis, 16 janvier 2009.
Ahlan Anis, comment ça va?
Ça va et toi?
Je suis toujours vivant.
D'accord, c'est très bien, c'est très bien.
Je tiens à la vie. On essaie de survivre.
Qu'est-ce que tu fais à Gaza en ce moment?
Alors, on essaye d'être oui, fort, costaud, mais là-dedans, on est des êtres humains. On a peur, on panique, mais avec le temps, on est vraiment champion de cacher nos enfants. Alors, ce que je fais moi-même avec ma femme, là, on essaie de dormir, on est cinq, ensemble. Alors, à 10 heures, j'essaie de mettre la tête de mes enfants au-dessus de matelas, au-dessus de coussins, au-dessus de couvertures. Tout ça juste pour une simple raison. Quand il vient le moment de mourir, je m'excuse. On essaie d'éviter de voir l'homme rire.
On sait que c'est très difficile, Monzer, parce que tu parles de tes enfants, de la vie des gens qui sont... Et j'espère que tu ne vas pas les voir mourir et que la vie va gagner tout. Il espère qu'il ne va pas voir ses enfants mourir devant lui.
C'est dur, c'est dur, Anis.
Il faut garder c'est dur, l'espoir.
C'est dur,
oui.
C'est dur, Anis, quand on voit les hommes pleurer, c'est dur. Tous les peuples à Gaza, ils sont des cibles.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas, j'y suis avec Guy Vanctil. Palestine, quel état? Le zoo de Gaza.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, ça c'est le petit bruit qui veut dire un peu d'air frais.
Ouais, c'est vrai que c'est un bruit très attendu, le petit bruit du tampon. Voilà, bah c'est une salle d'attente toute bête. Pour nous, ça ne nous semble pas extraordinaire. On est habitué à ce genre de choses, hein. Sauf que là, ça prend des proportions très particulières pour les habitants de Gaza. Faut rappeler la définition qu'on donne toujours de Gaza, la plus grande prison à ciel ouvert de la planète. Donc sortir de cette prison, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui se passe là.
Au compte-gouttes.
Il n'y a rien de garanti. C'est toujours l'Égyptien. Il faut passer l'Égyptien pour que ça soit garanti. Il faut voir les personnes qui voyagent côté égyptien quand ils finissent là, chez la douane égyptienne et vont monter dans le taxi. C'est voir leur visage, comment ils sont contents. Pour eux, c'est quelqu'un qui sort d'une prison. C'est la même joie. On est tellement heureux que voilà, on est sorti d'une prison.
Gaza, nous revoilà encore à Gaza, la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Et là, on est au sud de Gaza, à Rafah, sur la frontière avec l'Égypte, où, sous certaines conditions, les habitants de Gaza, les Gazaouis, peuvent se rendre en Égypte, mais sous certaines conditions extrêmement strictes, il y a un échange. Et puis, les choses changent aussi du côté égyptien. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il en faut, bien sûr. Et puis, il y a des échanges. Et on va avoir ces fameux tunnels. Les fameux tunnels entre Gaza et l'autre côté, l'Égypte. Et qui sont dans cette ville de Rafah qu'on a connue à plusieurs reprises au cours de nos reportages. On l'a connue complètement morte, cette ville de Rafah, complètement désertée, complètement en ruine. Et puis là, elle est active. Cette ville est à nouveau active à cause de ces tunnels par où passent des quantités de marchandises, et ce qui fait un trafic, ce qui fait un business, et ce qui fait que cette ville à nouveau respire et vit. On va donc passer un moment dans cette ville, auprès de ces tunnels, au bout des tunnels, voilà. Rafah, au bout du tunnel, on aurait pu intituler ce reportage d'aujourd'hui. Mais avant, je voudrais revenir sur quelque chose. On vient d'évoquer l'opération dite plomb durci entre décembre et janvier 2009. Vous vous souvenez, bien sûr, que en septembre 2009, quelques mois plus tard, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a publié un rapport dirigé par le juge Goldstone. Et la conclusion de ce rapport était accablante pour Israël. Le juge Goldstone évoquait des actes concernant Israël, des actes assimilables à des crimes de guerre et dans certains cas à des crimes contre l'humanité. Or, et ça vous vous en souvenez sans doute aussi, bien sûr, en avril 2011, le même juge Goldstone est revenu sur les conclusions du rapport et les accusations contre Israël. On se souvient de ce retrait, presque un repentir, du juge Goldstone, ce qui a fait dire au pouvoir israélien, à monsieur Netanyahou, qu'il fallait jeter ce rapport dans les poubelles de l'histoire. Mais on a oublié que quelques jours après ce retrait du juge Goldstone, ceux qui avaient fait ce rapport avec lui, les trois autres co-auteurs du rapport, ont publié un communiqué pour critiquer le retrait du juge Goldstone et pour confirmer, selon eux, trois, donc, les premières conclusions qui avaient été faites. Et je tiens à le dire parce que ce rebondissement-là est beaucoup moins connu et très rarement, sinon jamais, évoqué dès qu'il est question de ce rapport Goldstone. Donc nous voilà à Gaza. On traverse Gaza jusqu'au sud, jusqu'à la frontière avec l'Égypte. Et je me souviens d'images là, je ne sais plus au cours de quel reportage, peut-être 98, où j'avais vu une femme qui était debout sur un fût de fioul, un tonneau comme ça, et qui derrière des barbelés du côté Rafah interpellait quelqu'un, une parente ou un parent de l'autre côté de la frontière. Frontière de barbelés, double frontière de barbelés, avec des patrouilles israéliennes qui passaient régulièrement entre les deux. J'ai encore dans l'oreille la voix de cette femme qui hurlait, qui interpellait, de toute sa force, de tous ses poumons, et qui attendait de l'autre côté des réponses. C'est toujours des choses déchirantes, c'est des moments évidemment déchirants, ce lien humain uniquement par des mots comme ça que l'air transporte. Aujourd'hui, on peut passer sous des conditions extrêmement restrictives, mais on peut quand même. Et puis, il y a ces tunnels. Et c'est au bout de ces tunnels qu'on va passer une partie de cette heure. Et au bout de ces tunnels, eh bien, on verra un python, un lion, une lionne, des singes et un âne qui ressemble beaucoup à un âne, même s'il y a peu de temps, comme il manquait de zèbres dans ce petit zoo de Gaza, on avait eu l'idée de peindre l'âne en blanc et noir pour faire comprendre aux enfants de Gaza à quoi pouvait bien ressembler un zèbre noir, blanc, comme les ombres des barreaux d'une prison à Gaza. C'est jusqu'à 16h, c'est la Basse
Vision. DJ Joe, a.k.a. the Diamond Cutter.
بس صرنا زلمي الحياة سريعة مثل الحبل في ألمي حسوا في ألمي مشتاق لبلدي واقف مع صلاح الدين راب موافقين على المايك مواسمين اسمع الدق كيف سمعوا قالوا لا قالوا مستحيل الولد لسانه طويل مش ذكي عقله صغير مثل الفيل تريدوا منديل أما منديلا تريد علينا فرط الولد من بين إيدينا شو علينا غير عن نغسل إيدينا شوف كيف الولد يكبر من ورا ليلة شوف
أول ثانية ما بتنساني
إبراهيم مسمى حاله فلسطين
كل صار حياتي من ورا لساني
سمعت الصوت ليش بعدكم نايمين
قلبي أحلم إن شاء الله أشوف بلادي
يا ليلي يا ليلي يا ليلي
عيش بلادي مع كل إخواتي
إن شاء الله إن شاء الله
أول ثانية ما بتنساني
إبراهيم مسمى حاله فلسطين
كل صار حياتي من ورا لساني
سمعت الصوت ليش بعدكم نايمين
قلبي أحلم إن شاء الله أشوف بلادي
يا ليلي يا ليلي يا ليلي
Voilà, bah c'est une salle d'attente toute bête, avec des gens qui attendent, et des femmes quand même avec le niqab. Hein. Dis-moi, toi qui vis ici depuis longtemps, concernant le niqab, concernant le voile intégral, est-ce que tu vois une augmentation ou pas?
Oui, une forte augmentation. Depuis 2 ans, 3 ans à peu près. C'est-à-dire depuis que le Hamas, ils ont pris le pouvoir à Gaza. C'est pas parce que c'est le Hamas qui impose ça, c'est pas ça. C'est-à-dire là, c'est des apparences qu'on voit à Gaza. C'est surtout, par exemple, les barbes chez les jeunes qui font pousser leurs barbes parce que c'est le pouvoir, c'est islamiste, donc on ressemble un peu au pouvoir. Les femmes aussi, pour n'être tranquilles, ne pas être embêtées, ils mettent le niqab.
C'est protection-soumission, quoi. Ouais. On se soumet pour pas avoir d'emmerdement. On fait ce qu'il faut faire. Ouais. Ça veut pas du tout dire qu'on y croit.
Ça veut pas dire qu'on y croit au niqab, et c'est pour ça qu'on le met, ou bien que le Hamas impose le niqab. C'est pas
est-ce
du tout ça.
Est-ce que tu as plus de monde dans les mosquées depuis que le Hamas est là?
Non, ça n'a pas changé, mais c'est juste, c'est un peu marrant, mais c'est juste parfois, si vous voulez être embauché auprès du Hamas, il faut passer par la mosquée. Et donc il y a des gens, c'est un peu de l'hypocrisie, c'est juste voilà, c'est on va à la mosquée pour que on se voit qu'on est pratiquant et tout, on est bien, donc on peut être embauché. Mais sinon rien n'a changé, le nombre des pratiquants n'a pas changé.
C'est-à-dire pratique, barbe et niqab, c'est un opportunisme parce que c'est comme ça en ce moment.
Ouais, mais justement parce que même avant, à l'époque des Israéliens, les Palestiniens par exemple qui étaient ici dans ce terminal là, ils imitaient les Israéliens. La façon de s'habiller, la façon de mettre le talkie-walkie, la façon de mettre le pistolet. Tout ça, c'était l'imitation parce que les Israéliens qui étaient le plus fort. Après, dans l'époque de l'autorité, pareil, la jeunesse, ils commencent à imiter un peu le pouvoir. Donc, on a le jean, les lunettes de soleil, le gel, les cheveux bien rasés, etc. Aujourd'hui, c'est la barbe. Aujourd'hui, par exemple, si on répond au téléphone, on dit salam alaikum. Alors qu'avant, on disait marhaba, ou salut, ou bonjour. Donc tout ça, ça dépend de la période sur laquelle on passe.
Et ça dépend de l'occupant.
Ça dépend de l'occupant, si on peut dire ça. Ouais.
On est impressionné. On nous dit qu'il y a 600 personnes qui passent tous les jours.
هذا 600 بس يعني بدخلوا فقط من 10 ايام لكن قبل 10 ايام كان اقل من 400 بدخلوا
600 personnes c'était juste il y a 10 jours avant 10 jours il y avait juste 400 personnes qui passaient.
Quels sont les critères pour sortir de Gaza?
اللي هي فئة الطلاب المرضى حاملي الجوازات الأجنبية
les étudiants les transferts médicaux ceux qui portent un passeport étranger
واصحاب الاقامات في الخارج
et ceux qui ont une carte de séjour à l'étranger mais à part ça personne ne peut sortir
لانهم بينظروا لكل شعب قطاع غزة انهم ارهابيين
parce que les israéliens ils ont une vision que toute la population de Gaza c'est des terroristes
et c'est pas vrai هذا رايك انت لكن هو الواقع انا بتحدث بواقع
et dit c'est votre avis mais la réalité c'est pas ça.
Ah, c'est pas mon avis, je plaisante.
Ah, non, on est pour la première.
Fais gaffe avec tes blagues, Daniel.
Voilà la frontière Rafah-Égypte. Donc, Rafah, une ville transformée, actuellement très active. On voit des camions, des belles voitures étincelantes, des 4x4 étincelantes. Pas partout. Les camps de réfugiés qui sont là depuis 48 sont toujours bel et bien là. La vie est très difficile, la souffrance très grande. Il y a toujours le blocus. On est juste à deux doigts de la crise humanitaire et évidemment cette prison de Gaza est sous surveillance ou haute surveillance israélienne. On le verra avec les F-16 qui passent en rase-motte au-dessus de Rafah et on sait le matériel militaire de haute technologie dont dispose Israël pour surveiller les faits et gestes de tous ceux qui vivent et qui survivent là, enfermés pour la plupart. La plupart ne peuvent pas sortir de cet espace qu'est Gaza. Mais on est quand même depuis 2005, depuis le retrait des colons, depuis le retrait apparent, visible des forces israéliennes, on a l'impression que les Gazaouis sont un peu plus chez eux, se sentent un peu plus chez eux. Entre eux, c'est peut-être une impression. Quant à la pression du Hamas sur la population, j'ai l'impression, c'est notre impression à Guive, que notre ami, guide, traducteur, Rami, n'a pas tort de souligner probablement le côté très opportuniste et assez hypocrite de celles et ceux qui ont l'air d'être des islamistes zélés et convaincus, que ce soit les hommes avec leurs armes, leurs barbes, non pas leurs armes, on verra ça plus tard, les armes, avec leurs barbes bien taillées, et les femmes avec leur voile et leur handicap. Là, on suit cette fameuse ligne des tunnels. Vous avez bien sûr entendu parler de ces tunnels. Vous avez vu sans doute des reportages sur ce sujet extraordinaire. Eh bien, nous y sommes. C'est quand même incroyable. Voilà la ligne des tunnels. La ligne des tunnels. On voit des tumulus de terre, des bâches. Et sous chaque bâche, il y a un tunnel. C'est l'entrée d'un tunnel. Et tu dis qu'il y a 1000 tunnels.
Un peu plus aussi.
Voilà, là on les voit très bien. Toute la série là de bâches sont des tunnels. Là on voit les entrées, effectivement. On voit effectivement les entrées des tunnels sous les bâches. Là, des ruines qui datent de l'opération Plan Durci.
Là, cette maison-là, c'est les Israéliens, ils l'ont bombardée. Les F-16, ils couvrent toujours le ciel du Rafah, surtout pour les tunnels, et ils peuvent à n'importe quel moment, ils bombardent. On a un ou deux bombardements par mois.
Et là, à droite, regardez, des mecs qui sont en train de fouiller les débris pour recycler.
Ça, c'est des ferrailleurs qui récupèrent l'acier dans le béton armé.
C'est des dégâts aussi de la guerre, c'est le plan durci, c'est des maisons qui étaient là, ils étaient bombardés.
Et comme vous voyez aussi, pareil, ils essayent de retrouver tout ce qui est retrouvable ou bien tout ce qui est récupérable pour soit recyclage pour faire du gravier, et soit c'est le ferraille pour le réutiliser.
Ce qui donne à tout cet aspect une espèce de zone de tranchée quoi, entre les bâches, les terres qui a été accumulée à cause des tunnels, les restes de débris des opérations de 2007.
Ah, et la police surveille. Donc, on n'est pas bienvenus.
Essayez de faire une autre entrée, parce que si on va se rapprocher tout de suite, ils vont nous arrêter pour fouiller la voiture. Et s'ils voient qu'on est des journalistes, ils ont pris une décision il y a un mois d'interdire tous les journalistes d'entrer dans la zone du tunnel. Les cargaisons qui font passer surtout de la matière de construction. Et comme vous voyez, vous regardez, là, c'est les tunnels aussi.
On peut passer quoi ? On peut passer un camion dans un tunnel ? Non,
non, on ne peut pas passer un camion. Mais par contre, on peut passer une voiture. Il y a des tunnels où ils ont la grandeur d'une voiture.
Donc c'est un volume énorme de marchandises qui passent chaque jour.
C'est des tonnes et des tonnes de matière de construction qui passent chaque jour. Un tunnel normal, il peut faire passer par jour 4 ou 5 tonnes de ciment, ou bien du gravier, ou même un peu plus.
Voilà. Alors les tunnels sont taxés par le Hamas, sont contrôlés par le Hamas.
Tout ce qui passe par les tunnels est contrôlé par le Hamas. Comme vous voyez, là, le Hamas, ils sont partout. Il faut une voiture qui entre et qui sorte. Bien sûr, pour les journalistes, ça c'est interdit. Mais par contre, d'autres personnes, par exemple des voitures, les camions et tout ça, en sortant, ils les fouillent. Et ils notent, ça vient pour qui, c'est pour quelle personne, etc. Pour un peu contrôler la marchandise, où est-ce qu'il va. Oui. Et en même temps, pour les taxes aussi. Parce qu'ils mettent des taxes sur la marchandise qui passe par les tunnels. Pareil aussi, c'est les tunnels, toujours c'est les tunnels. Donc les tunnels, c'est à peu près sur 2 et 3 km, c'est-à-dire d'ici, donc on a les tunnels jusqu'à la mer. Regardez les policiers partout, ils sont là, ils contrôlent toute personne qui entre et qui sort. Bien sûr, il y a des patrouilles aussi au sein des tunnels qui passent. Vous voyez là les jeeps de la police qui patrouillent entre les tunnels. Pour aussi contrôler s'il y a des personnes qui entrent et en plus et s'il y a des marchandises. Ouais. Les trafiquants des tunnels qui ont des bandes jeep, des jeeps très chers qui sont là.
Un gros 4x4 tout blanc rutilant là qui passe.
Ça, c'est ceux qui sont enrichis grâce aux tunnels. C'est-à-dire chaque propriétaire, chaque gérant de tunnel s'enrichit. C'est les enrichis des tunnels.
Ouais, le business de tunnel, ceux qui ont investi au début dans le business du tunnel, c'est eux qui ont fait beaucoup d'argent. Et c'est le nouveau riche de Gaza. C'est pour ça que la ville de Rafah a été connue comme une ville oubliée à Gaza, comme une province oubliée. Aujourd'hui, c'est l'Eldorador de Gaza. La ville de Rafah, c'est l'Eldorador de Gaza.
Mais oui, parce que s'il y a 1000 tunnels, ça fait beaucoup d'argent. Et cet argent circule dans la ville.
Et surtout, c'est les gens au début, ils étaient un peu le monopole. C'est-à-dire, moi, je fais passer des cargaisons de coca, il y a que moi qui vends le coca. Donc, je peux mettre le prix que je veux. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils ont fait une grande fortune et ils ont fait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, regardez là, Rafah, c'est les matières de construction, c'est le bois qui passe, c'est le ciment. Tout ce qui est matière de construction, on peut venir à Rafah, vous le trouvez dans le marché normal, exposé devant les boutiques, comme vous voyez là devant vous. Et tout ce qu'on peut pas trouver dans le Gaza, on le trouve à Rafah. يلا نادوا الشباب كل الشباب بالساحة الحبايب والقرايب وين الشباب اوي يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي
يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي
بنادي على الرجال
يا حلالي ويا مالي
بنادي على الرجال بنادي
On est dans un endroit incroyable quand même. On est à Rafah. Rafah, ça veut dire la frontière entre Gaza et Égypte. Mais un endroit dont on entend toujours parler comme un endroit terrible, dramatique. Mais là, pas du tout. On est dans un endroit absolument charmant qui est un zoo. Ici, il y a un zoo. On entend les oiseaux. Et les garçons qui sont là, on les a emmenés là pour qu'ils nous parlent de leur boulot. Qui travaillent dans les tunnels. Ils sont boss dans ce...
Ils sont contents parce qu'ils sont au zoo. Quand on leur proposait de venir au zoo, ils étaient très contents parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller dans ces endroits. Ils sont tout le monde tellement dans le travail.
Dans le boulot, tunnels, là, ça leur fait une petite sortie, là, ça leur fait une récré.
Les lions, le serpent et tout ça.
L'histoire extraordinaire, c'est que certains des animaux de ce zoo sont passés par les tunnels très très nombreux qui ont été creusés entre Rafah et l'Égypte. On dit 1000 tunnels ont été creusé et fonctionne jour et nuit pour faire entrer des matières, des premières, et des gens aussi, des personnes. Hein. Combien ça coûte pour une personne pour passer ?
Pour un étranger, ça peut coûter entre 1000 et 1500 dollars, mais pour un citoyen de Gaza, c'est à peu près 50 dollars, 150 shekels ou 200 shekels. Ça dépend de la raison pour laquelle on va partir, etc.
Il faut dire que les tunnels, évidemment, sont interdits et que l'aviation israélienne survole en permanence les tunnels et de temps en temps bombarde. C'est ce qu'on entend là ? On entend les F-16 qui passent ?
Voilà, on entend les F-16.
C'est loin, mais on les entend en effet. Et régulièrement, il y a bombardement de tunnels.
Tous les mois, il y a un ou deux tunnels qui sont bombardés par les F-16 israéliens. Mais parfois, quand ils bombardent un tunnel, ils font un petit avertissement. Et surtout, ils avertissent les Égyptiens en disant que voilà, on survole et peut-être il va y avoir bombardement. Les Égyptiens eux-mêmes, ils se reculent un peu de leur mirador et ils donnent un avertissement aux Palestiniens qui sont juste en face. Et quand ils voient les Égyptiens se retirer, ils savent qu'il y a un bombardement, donc tout de suite, ils se retirent les gens qui travaillent dans le tunnel. Mais parfois, soit ils sont dedans dans le tunnel, ils n'ont pas le temps de se retirer avant d'être bombardés, et soit ils n'ont pas très bien compris le message égyptien et ils croient que c'est juste une fausse alerte. Ils sont toujours là et là, on a des victimes qui partent à cause de bombardement des F-16.
Nous voilà dans l'entité hostile. C'est ainsi que Israël nomme Gaza depuis septembre 2007 entité hostile à cause évidemment du gouvernement du Hamas sur cette partie de la Palestine. Territoire palestinien, n'oublions pas, on était en Cisjordanie, on a traversé jusqu'à Gaza, on fait partie des rares qui peuvent actuellement entrer dans Gaza en tant que journaliste étranger. Évidemment, les journalistes israéliens n'ont absolument pas la possibilité d'entrer dans ce territoire, et la plupart des habitants de Gaza n'ont pas la possibilité d'en sortir. Alors, c'est dire si entre ces tensions, ces pressions permanentes auxquelles on ne s'habitue jamais, bien évidemment, aller faire un tour aux zoos, c'est tout petit, mais c'est arboré, c'est tranquille, et puis dans les zoos, il y a des oiseaux.
C'est le fils du responsable du zoo.
Vous pouvez nous parler du zoo un peu ?
تقريبا في سنة 1992 أول كان أول منفس هواء منتزه حديقة في قطاع غزة وكان حديقة الحيوان هذه. الترفيه عن الناس وعن.
Ce zoo s'était créé en 1992. C'était le premier zoo dans la bande de Gaza. C'était le seul endroit où les gens ils pouvaient venir pour changer un peu d'air, pour se divertir un peu.
بعدين لما نزبطنا جبنا أسود ونمور وشغلات حلوة كتير.
Petit à petit, on a commencé avec les oiseaux. Maintenant, on parle des lions, des tigres, des belles choses.
On va les voir, on va aller voir.
Chose,
faut les voir un peu.
Brigitte Bardot ne sera pas très contente dans ce zoo quand même, parce que c'est vraiment des cages de 10 mètres carrés, 15 mètres carrés, pas plus. Quoi.
Mais oui.
C'est un zoo qui a l'image du pays, de la bande de Gaza.
Un pauvre cerf en cage avec ses grandes cornes. Avec sa femelle, pélican.
On voit que mais il se cache.
Dans la cage là ?
Le jaguar, ouais.
Il tape sur la cage pour essayer de le réveiller parce qu'il fait chaud en plus, quoi. Ça cogne.
Un chimpanzé.
Un pauvre chimpanzé, tout seul, là, qui nous regarde.
Un chimpanzé qui est dans sa double cage.
Ça, c'est quoi là-bas ?
Hyène.
Là, ça vient par les tunnels.
Ah, ah ben, ça pue ! Hyène, le chacal, ça pue. Donc, eux, ils sont passés par les tunnels.
Oui, c'est passé par les tunnels.
Passer par le tunnel pour finir dans une cage à Gaza.
Le lion.
Ah, le lion. Il est passé par le tunnel aussi, le lion. Salut, lion. Ah, mais il est avec Salion, le lion. Il a quand même, hein, lui, il est respecté.
Hein?
Quand il pisse sur nous.
Ah, il pisse loin. Si loin que ça.
يعني هذه كانت يعني على مستوى بديش اقول لك اسرائيل على مستوى غزة كانت يعني ايش جنة فمسحوها زي هيك
Et dit en 2005, les Israéliens, ils ont venu ici, ils étaient toujours dans la banlieue de Gaza, ils ont terrassé ce zoo-là.
Ils l'ont rasé avec un char, avec quoi?
Bulldozer, دبابات, احتلوا يعني الموقع هنا يعني كانوا ايام اخر اجتياح كانوا الاجتياح قوس قزح.
Là, c'était l'opération arc-en-ciel. Et là, ils ont fait.
Ça, c'est le cerf qui est pas content, qui donne des coups de corne.
Et c'était une opération militaire qui s'appelle arc-en-ciel. Ils ont occupé cet endroit-là où on est aujourd'hui.
Voilà, ici, tam hana.
Tout a été rasé.
Mais ils ont tué les animaux?
Ah.
Oui.
Maktoua, le lion.
C'est le seul survivant de l'attaque israélienne en 2005 arc-en-ciel. Et une des pattes est toujours coupée. Là.
Ils les ont libérés ou ils les ont tués, les bêtes?
Celui qui a pris la fuite, un animal qui a pris la fuite, bon, il a pris la fuite, mais sinon, tout le reste, ils l'ont tué. Il y avait un tigre, par exemple, et c'est eux qui l'ont tué. Ils l'ont tiré dessus. C'est de là, c'est des singes égyptiens, et celui-là, c'est un israélien.
Et alors, comme par hasard, il y a un mur, une barrière de séparation entre les singes égyptiens et les singes israéliens. Et ils se battent des fois, les singes israéliens et les singes égyptiens.
Ah, beaucoup de l'élevage à l'matra.
Oui, mais tout de suite, ils peuvent s'entretuer entre eux.
Ah, mais chef, hâte même d'où a fait chabak na'im.
Ouais, c'est pour ça qu'on les sépare, parce que même, vous voyez, il y a des grillages pour qu'ils ne mettent pas leurs mains aussi. Ils n'arrivent pas à attraper l'un à l'autre.
Parce qu'ils parlent de politique, c'est pour l'accès aux ressources. Il y a même, regarde, il y a même une grande roue.
Ah ouais.
Et ce qui est formidable, c'est que les nacelles de la grande roue sont des cages. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de la cage dans ce pays de fous. Et voilà, oh là là, voilà le guide qui arrive avec un espèce de python, un énorme serpent qui doit faire, je sais pas, 3 mètres de long, qu'il a mis autour du cou comme une dame de cirque.
Oui,
sauf que lui, il a une grosse barbe.
On est dans le zoo de Rafah. Des animaux dans des cages qui sont visités quand il y a des visites par un peuple en cage, lui aussi, les habitants de Gaza. Et Rami nous raconte qu'il n'y avait pas de zèbre, il y avait un problème parce qu'on n'avait pas de zèbre. Alors on a pris un âne et
non.
On l'a teint, on a fait de la teinture.
De la teinture en noir et blanc pour que ça devienne un zèbre.
Pour que ça devienne un zèbre, pour
et
que les gens,
ça, les gens ils connaissent ce que c'est un zèbre.
De ce qu'est un zèbre. Il n'est plus là maintenant le zèbre, il est parti.
Et maintenant cet âne n'est plus zèbre, il est redevenu, il a perdu sa teinture, et il est redevenu un âne.
Là ce qui est intéressant c'est que il y a des animaux dans ce zoo qui sont passés par les tunnels, hein. Et on a vu le lion.
La majorité des animaux que vous voyez ici, sont passés par les tunnels.
Et les jeunes qui sont avec nous, les gamins, on va dire, qui sont avec nous là, qu'on a emmenés dans ce zoo, à F-16 qui repasse. Et ça peut précéder un bombardement.
Puisqu'on est juste près des tunnels, comme vous voyez, c'était juste quelques centaines de mètres, on est loin des tunnels. Et là, les F-16, tous les jours, ils survolent. Mais là, quand on les entend trop près, là, c'est un petit avertissement que peut-être ils vont bombarder.
Vous, les jeunes, là, vous travaillez dans les tunnels?
Qui travaille?
Toi, tu travailles?
Deux, trois.
Racontez-nous un petit peu ce que c'est votre boulot dans les tunnels. Vous avez quel âge d'abord?
J'ai 17 ans.
16 ans.
15
ans.
16
ans.
16 ans.
14 ans.
14 ans. Ok. Et c'est quoi votre boulot dans les tunnels alors? Ça consiste en quoi votre travail dans les tunnels?
On fait porter du ciment, des graviers, des ferrailles, des marchandises en général.
Vous êtes porteur?
Ça dépend du tunnel. Il y a des tunnels qui sont plus sophistiqués. On peut passer, il y a des treuils. Sinon, on porte, on prend le trajet, on fait le trajet nous-mêmes.
Alors, c'est long comment le trajet?
Ça dépend des tunnels. Il y a des tunnels de longueur de 500 mètres. Il y en a d'autres d'un 1000 mètres. Il y en a d'autres de 750.
Ah, d'accord.
Donc, ça dépend des tunnels.
Et on étaye, on met des étais ou c'est comme ça, ça tient tout seul?
Ça dépend du sol, de la nature du sol. Et si le sol, l'argile est solide, on fait rien. Mais si c'est l'argile qui peut couler à n'importe quel moment, on couvre le tunnel par du bois.
Dis donc, ça doit être dangereux, il doit y avoir des tas de gens qui sont morts dans cette histoire.
انفجرت شياطه كامله يمكن 12 جره ومات اللي عند الدشمه اللي على المطار واللي على البير واللي على العين اللي برا في مصر طار وطير. Bien sûr, c'est dangereux. Un petit exemple, hier, il y a eu deux morts. Hier, il y avait un tunnel où ils font passer des bouteilles de gaz. Il y avait 12 bouteilles de gaz qui ont explosé. Celui qui était côté égyptien, il a sauté, donc il est mort. Et celui qui était dans le puits, qui est devant le treuil, là, pareil, lui, il est mort. Donc ça a explosé, tout le monde a été calciné.
Et voilà les F-16 qui passent à nouveau. Qu'est-ce que vous transportez, vous, comme produit, comme matière? Qu'est-ce que vous portez le plus souvent?
Du ciment, du gravier, de
ferraille. Ah, c'est ça. Et vous gagnez combien par jour?
Ça dépend des. On est payé par tonne. On a 30 shekels par exemple pour une tonne de ciment. On a 25
shekels. 30 shekels pour une tonne, oui.
On a 25 shekels pour les graviers.
6 euros, 5 euros.
50 shekels pour une tonne de ferraille.
10 euros.
Et il dit on est payé par tonne, mais ça dépend du nombre d'ouvriers. Par exemple, on peut être 5, on peut être 6, on peut être 10, ça dépend du tunnel. Et il dit on fait passer par jour 50, 60 tonnes, 70 tonnes. Ça dépend de notre activité et de notre performance.
Mais en moyenne, vous gagnez combien par jour?
80, 100. Ça dépend, 80 shekels, 100 shekels, ça dépend.
15-20 euros par jour.
Nous, on travaille juste 12 heures parce qu'on fait tour de journée et tour pour la nuit. Donc nous, notre travail maximum, c'est 12 heures.
C'est 12 heures par jour? C'est déjà pas mal.
Non, c'est pas trop.
Et l'argent, tu le donnes à ta famille?
On dit mon père, il travaille, mais moi aussi j'aide. J'ai juste un petit frère qui a juste un nom, mais sinon c'est moi et mon père qui finance la famille.
Alors du coup, vous n'allez pas à l'école pendant ce temps-là? Vous n'allez pas au collège?
Ouais, ça fait à peu près un an et demi que je ne vais pas à l'école.
Ah ouais. Ah ouais, pour nourrir la famille.
Ah, c'est un camion.
Ah, c'est un camion quoi qui... C'est pas un bombardement, c'est un camion.
C'est vrai que cet aller-retour de F-16, ça fait une parano, quoi.
Tu t'attends que bientôt il va y avoir un bombardement, et donc du coup, n'importe quel bruit, pour toi, c'est un bombardement.
Les animaux, on l'a habitué. Hein.
Il a vécu un bombardement.
Merci à tous, c'était le zoo de Gaza, un reportage avec Guy Van Til. Merci à Rami Abou Souleymane, notre ami de Rafa. Merci à Grégory Philippe, Benjamin Barthes,
Michel Warchavski. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Facebook là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari. Bertrand Chompton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. J'attends vos messages sur le répondeur de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Sophie arrive en courant dans un long couloir de bureau. Il est 9h, une réunion importante l'attend, il y a même des chances pour que ça dure toute la matinée. Approchons-nous un peu pour écouter ce qui se passe dans sa tête. C'est bien de pouvoir travailler en sachant que pendant ce temps, ses enfants s'amusent.
La garde d'enfants, c'est l'un des 18 métiers que 2 millions de professionnels peuvent exercer à votre domicile. Les services à la personne, ça vous change la vie. Pour tout savoir, appelez le 3211, prix d'un appel local depuis un poste fixe. C'était un message de l'Agence nationale des services à la personne et des ministères chargés de l'économie et de l'emploi.
Être le premier réseau social d'assurance, ça permet d'offrir à ses assurés une épargne solide, sûre, disponible et performante. Une épargne zéro tracas, zéro blabla et qui rapporte. Alors, qui c'est les clients ?
C'est nous ! Zéro tracas, zéro blabla, elle est là !
France Croix.
Vous ne savez pas que 13 000 juifs ont été arrêtés cette nuit-là en France et certainement autant dans tous les pays occupés ?
Si les alliés savaient, pourquoi personne n'a rien dit ? J'étais à Nuremberg, une fiction inédite suivie d'un débat dans Ce soir ou jamais avec Frédéric Taddeï. Demain à 20h35 sur France 3.
France Inter présente Les Neiges du Kilimandjaro, un film de Robert Guédiguian avec Jean-Pierre Daroussin et Ariane Ascaride. Michel vient de perdre son emploi sur les chantiers, mais le couple qu'il forme avec Marie-Claire est à l'épreuve de tout. Ce bonheur va voler en éclats lors d'une agression, et leur désarroi sera d'autant plus grand quand ils vont découvrir la vérité.
C'est un ouvrier comme nous.
Le couple fragilisé va pourtant réagir avec son cœur et ses convictions. Les Neiges du Kilimandjaro au cinéma le 16 novembre. Retrouvez Robert Guédiguian à 18h dans Downtown.
Voilà, 16h et quelques secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Les infos, Laetitia Gaillet. Salut.
Un soldat français a été tué ce matin en Afghanistan. Information donnée par l'Elysée. Ce légionnaire du 2e régiment étranger du génie est mort lors d'une opération dans la province de la Kapisa. C'est le 76e soldat tué en Afghanistan depuis le début de l'intervention française en 2001. Un autre soldat français a été blessé lui aussi aujourd'hui par des tirs lors de cette opération. L'Allemagne avait cédé du terrain ce matin. Eh bien, ça se confirme. Le programme d'aide pour les plus démunis va être prolongé en l'état, le tout pendant 2 ans. Un accord a été trouvé à Bruxelles aujourd'hui. En échange, la France et l'Allemagne s'engagent à travailler ensemble pour faire en sorte que d'ici 2014, ce programme d'aide aux plus démunis ne soit plus financé par l'Union européenne. L'information n'est pas encore officielle. Elle est donnée par Bruxelles par des diplomates. Il pourra ainsi à terme remplacer tous ceux contenus dans les aliments et les boissons sans sucre. Cet édulcorant est tiré d'une plante originaire d'Amérique du Sud, apparentée à la famille des plantes comme l'estragon ou la camomille. Cette autorisation entrera en vigueur le 2 décembre prochain. Comme pour Mario Monti en Italie, pas de trêve pour Loukas Papademos en Grèce. Le nouveau Premier ministre grec continue de former son gouvernement. Son discours de politique générale est prévu, lui, pour ce soir. Et il va devoir répondre aux angoisses des créanciers. D'ailleurs, les responsables de la Troïka sont attendus finalement en fin de semaine à Athènes. En France, contre le plan de rigueur du gouvernement, Bernard Thibault prône aujourd'hui une journée de mobilisation unitaire début décembre. Tout cela sera décidé vendredi lors de l'intersyndicale, réunion à laquelle FO va participer. Pour le secrétaire général de la CGT, si Force ouvrière vient, c'est pour faire capoter la riposte unitaire. La Ligue arabe veut envoyer 500 observateurs en Syrie, des membres d'organisations arabes des droits de l'homme, de médias et de militaires. Cette décision a été prise ce matin lors d'une réunion des organismes de la Ligue arabe en charge des droits de l'homme. Une autre réunion, elle, des ministres des Affaires étrangères, est prévue mercredi à Rabat et devrait donc entériner cet envoi. Aujourd'hui, le roi Abdallah II de Jordanie a appelé pour la première fois Bachar el-Assad à quitter le pays. Les islamistes d'Ennahda en Tunisie ont remporté 89 des 217 sièges de l'Assemblée constituante tunisienne. Le parti de gauche CPR en obtient 29, pétition populaire 26. Ce sont les résultats définitifs des élections du 23 octobre dernier, publiés donc aujourd'hui en Tunisie. Israël ne change pas de cap. L'État hébreu a décidé aujourd'hui le maintien du blocage des fonds dus aux Palestiniens. Cela fait suite à l'adhésion de la Palestine comme État membre à part entière de l'UNESCO. Rendez-vous le 16 avril 2012 pour Anders Behring Breivik. C'est à cette date que l'auteur du massacre qui a coûté la vie à 77 personnes en Norvège cet été sera jugé. Au cours de sa comparution aujourd'hui dans un tribunal d'Oslo, Anders Behring Breivik a reconnu les faits, mais il n'a pas plaidé coupable et il a récusé le tribunal. Il reste en détention provisoire encore 12 semaines. Et puis on vient de l'apprendre, l'écrivain fondateur des éditions Actes Sud, Hubert Nissen, est mort samedi à l'âge de 86 ans. Il avait notamment rencontré un grand succès en publiant 2 prix Nobel et la saga des Milléniums. Vous écoutez France Inter, 16h04.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Birdie Nam Nam, Quadricolore, et la Canaille.
J'ai faim. Une faim crève la dalle, un appétit féroce qui peu à peu sort de la cage.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi à partir de 18h devant la porte B de la maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter. La différence.
Carrefour de l'Odéon, c'est à vous Frédéric Odéon. Bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Hier s'est terminé le concours, maintenant tout à fait célèbre, le concours de chant de Mâcon, qui porte le titre de Symphonie d'automne. Ce nom, évidemment, qui était tout à fait justifié quand on est arrivé à Mâcon hier. Il y avait de la brume, c'était très joli, sur la Saône, et puis beaucoup de musique dans cette ville qui fait des efforts. Il y avait de la magie en même temps, mais ça n'a pas empêché le théâtre d'être plein pour le chant, etc. Donc on est très content d'entendre dans une ville qui est plutôt une ville moyenne, des grands artistes, des grands jeunes artistes, et puis de constater qu'il y a un jury tout à fait consistant. J'y viendrai au jury, mais d'abord je vais donner les prix. Donc c'est une jeune Hongroise qui a gagné le prix des Symphonies d'automne, elle s'appelle Chila Chovari, elle a eu aussi le prix de l'orchestre et des techniciens, ça n'est pas rien. Une Sud-Coréenne, qui s'appelle Yuri Jang, qui a eu le deuxième prix, le prix du public, ça n'est pas rien non plus. Le prix de la mélodie, c'était Hélène Hébrard, et puis Angélique Boudeville a eu le prix Jeune Talent, et je dois signaler quelqu'un qui n'a pas gagné. Mais ça ne fait rien, je cite son nom parce que la charmante Isabelle Aboulkir, qui avait composé les mélodies imposées pour ce concours, a dit « Ah, je regrette qu'il n'ait rien eu parce que je trouve qu'il a bien chanté ma mélodie, François Rougier, ténor. Quelquefois, on ne gagne rien, mais on fait une très belle carrière quand même. » Je dis ça pour le consoler. Et puis, ça se vérifie dans l'histoire de la musique. Il y avait quand même 42 candidats, 3 Sud-Coréens, un Franco-Allemand, 2 Suisses, 2 Chinois, un Albanais, 27 Français, un Allemand, un Belge, un Camerounais, un Colombien et une Hongroise qui a gagné. D'ailleurs, ben voilà, très beau concours. Il faut encourager ces symphonies d'automne qui arrivent à leur 18e année. Et c'était avec l'orchestre de Chalon, orchestre symphonique qui a 20 ans, lui, est dirigé par Éric Genest. Voilà, j'avais promis de dire tout ça parce que ça compte au milieu de tous les bruits étonnants qu'on peut goûter dans les journaux et à la radio. Et il y avait au jury une personne adorable et très talentueuse, Leontina Vadova, soprano française d'origine roumaine, qui a commencé en France dans Manon de Jules Massenet au Capitole de Toulouse. Et on va l'entendre dans un extrait de Giannis Kiki de Puccini. C'est Lauretta qui supplie son papa, oh mio babbino caro. J'ai entendu une fois à la télé quelqu'un qui traduisait oh mon petit bébé, mais non, c'est babbino, c'est le petit papa. Voyons, mademoiselle. Alors, oh cher petit papa, je t'aime, il est beau, il est si beau, je veux aller à Porta Rossa, ça se passe à Florence, c'est la Porte Rouge, donc, pour acheter mon anneau. C'est là qu'il y a des commerces, entre autres. Oui, oui, je veux y aller, et si jamais je les mets en vain, j'irai sur le Ponte Vecchio, sur ce très beau pont sur l'Arno, me jeter dans le fleuve, je me consume et je souffre, oh mon Dieu, je voudrais mourir. Pitié, papa, pitié.